Fabienne Saintès, le 18-20.
Jean-Marc, le petit Honduras en Amérique centrale voté hier, une alternance politique se dessine, la gauche devrait succéder à la droite, mais pour vous c'est un mirage. Le fait majeur, Jean-Marc, c'est que toute la région connaît une panne démocratique et une dérive autoritaire via des populismes de droite comme de gauche, et c'est votre monde d'après.
Alors, à première vue, les résultats de ce scrutin sont plutôt rassurants. Forte participation, plus de 60%, alternance quasi certaine, autant d'indices théoriques d'une bonne santé démocratique. Sur la moitié des bulletins dépouillés, la candidate de gauche, donc Xiomara Castro, toujours vêtue de rouge, souvent coiffée d'un chapeau style western, possède 20 points d'avance sur son rival de droite, Nasri Asfura, dauphin désigné du président sortant, Juan Orlando Hernandez, surnommé J.O.H. C'est un coup de pied dans la fourmilière de la corruption. J.O.H. était soupçonné d'être lié au cartel de la drogue. Son frère a d'ailleurs été condamné à la prison à vie aux États-Unis pour son implication dans le transport de 185 tonnes de cocaïne. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. D'abord, rien ne dit que le résultat des urnes sera respecté. Les risques de violence sont élevés. Le pays a connu près de 30 assassinats politiques depuis le début de l'année. Ensuite, rien ne certifie non plus que la gagnante soit plus vertueuse que son prédécesseur. Certes, elle promet, je cite, une démocratie participative, un gouvernement d'union. Mais pour Xiomara Castro, la politique est d'abord une affaire de famille. Son fils est son directeur de campagne. Elle est l'épouse d'un ancien président. Et surtout, elle ne cache pas une forme d'admiration pour le socialisme vénézuélien à la Chavez. Pas précisément une garantie de respect du pluralisme. Donc, on a le droit d'avoir des doutes.
Et c'est un problème, Jean-Marc, qu'on retrouve donc dans toute l'Amérique centrale.
Oui, en fait, il y a une seule exception à cette érosion démocratique, c'est le Costa Rica qui reste un îlot de calme relatif. Il y a aussi le cas particulier du Panama, mais il est porté à bout de bras par Washington compte tenu de l'importance géopolitique de son canal. Pour le reste, la dérive autocratique est omniprésente, que les pouvoirs se revendiquent de droite ou de gauche. À droite, on vient de parler du Honduras et de sa plongée dans la corruption depuis le coup d'État de 2009. Même topo au Guatemala voisin, son président Alejandro Ryan Matei, comme son prédécesseur Jimmy Morales, réprime les magistrats, entrave les enquêtes sur la corruption, s'en prend à la presse indépendante. Du côté des pouvoirs qui se revendiquent de gauche, ce n'est pas mieux. Dans le Petit Salvador, l'accession au pouvoir du très original Nayib Bukele, il y a 3 ans, avait suscité de l'espoir. C'était un quadragénaire en basket et blouson de cuir. Il semblait parti pour secouer le cocotier. 3 ans plus tard, désillusion. Il concentre tous les pouvoirs, s'en prend aux ONG, est soupçonné de détourner une partie de l'aide internationale. Ajoutons le Nicaragua et la dérive dictatoriale de son couple présidentiel Ortega Murillo. 4e mandat consécutif depuis début novembre, les opposants en prison. Et même le puissant et vaste Mexique n'est pas à l'abri. Son président, lui aussi, de gauche, AMLO, comme on le surnomme, a tout du démagogue populiste.
Et alors Jean-Marc, l'explication c'est quoi? Comment l'Amérique centrale en est arrivée là?
À la fin du XXe siècle, la région avait connu une embellie démocratique, mais en fait, la violence est profondément ancrée. Les coups d'État ont été multiples depuis 2 siècles, les régimes militaires fréquents, avec dans les années 1970 la bénédiction de Washington au nom de la lutte contre le péril communiste. Aujourd'hui encore, la responsabilité des États-Unis est forte à un double titre. D'une part, Washington ne regarde le sujet Amérique centrale que par le prisme de la lutte contre l'immigration illégale. Or, cette immigration massive depuis le Honduras ou le Guatemala ne va pas cesser, vu que dans ces deux pays, les 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté. D'autre part, la violence qui ronge ces sociétés d'Amérique centrale, le taux d'homicide est très élevé au Honduras. Cette violence est le plus souvent liée au cartel de la drogue, donc indirectement liée au marché de la drogue aux États-Unis. On peut ajouter enfin que ces pays sont souvent traversés de profondes lignes de fracture sur les sujets de société, la place des femmes, l'avortement, division nourrie par la poussée des églises évangéliques et autant de divisions qui poussent à la radicalité et aux dérives autoritaires. Bref, l'état démocratique de l'Amérique centrale est inquiétant et rien n'incite à l'optimisme.